Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une, cette nouvelle attaque des miliciens de la Codeco au village Chaba en Ituri. Bilan 8 morts et une dizaine de blessés. Les victimes sont une fois de plus des orpailleurs, mais cette fois-ci du camp minier de Alou. Lutte contre la corruption en RDC. Le réseau des parlementaires africains contre la corruption demande l'implication du Parlement congolais pour accompagner le président Félix-Antoine Tshisekedi dans cette lutte. Le président de l'APNAC s'est exprimé ainsi ce lundi à Kinshasa. Vous entendrez Pasisa Pamba. Et puis, la recherche du vivre ensemble a été au centre des consultations intercommunautaires initiées par la MONUSCO. Consultation clôturée ce week-end à Uvira, au sud Kivu. Pour en parler, nous recevons Maître Tchako Tchangou, président du comité urbain de la jeunesse d'Uvira. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce journal part de l'Ituri. 8 personnes sont mortes et une dizaine d'autres blessées au cours d'une nouvelle attaque des miliciens de la Codeco dans le territoire d'Aru, précisément au village Chaba, à la limite avec le territoire de Djougou. Selon des sources sur place, la plupart des victimes sont des orpailleurs qui travaillaient au camp minier de Alou. Ces assaillants ont incendié plusieurs maisons et presque toute la population a pris fuite pour trouver refuge ailleurs. Récit des faits avec Martial Kizabiamungo.
Un groupe d'hommes armés identifié aux assaillants de la Codeco en provenance de Walendouati dans le territoire de Maagui s'est introduit la nuit dernière au village Chaba dans le groupement Kantoi en tirant plusieurs coups de feu. Selon le chef d'Endo, ils se sont ensuite dirigés au camp minier de Alou où des milliers de personnes exploitent de l'or. Israël Omu Otobar indique que dans cette confusion, 8 personnes dont 2 femmes sont mortes par balle et 10 autres ont été blessées, dont certaines sont dans un état critique. Ajoute la même source. Avant de se retirer, ces miliciens ont mis les feux à plusieurs maisons et emporté une quantité importante d'or. Les chefs de cette entité déplorent la non-intervention des militaires FRDC qui ont été alertés par la population.
La police qui a intervenu pour l'instant, mais l'FRDC a désisté. Maintenant, elle n'a pas reçu des ordres. C'est ce qui a étonné la population. C'est vraiment grave. Pour le renforcement de la force pour sécuriser cette contrée-là.
Nous n'avons pas réussi à joindre les porte-parole de l'armée à l'Ituri. Notons que c'est la première attaque de ces assaillants de la Codeco dans les territoires d'Aru depuis le début de cette année. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Du côté du Nord Kivu, une patrouille de liaison des unités FARDC a essuyé des tirs hier entre Bikenge et Ishangi. C'est en profondeur du parc national de Virunga, groupement Kisigari, territoire de Rutshuru. Bilan, 2 militaires FARDC blessés, confirme le porte-parole du secteur opérationnel Sokola de Nord Kivu. L'armée accuse le M23 qui est basé à Mouhati d'avoir violé le cessez-le-feu. Le M23 de son côté rejette ces allégations. Denise Loukesso nous en dit plus.
Le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko parle de la énième attaque du M23 sur les FRDC dans le secteur. L'attaque d'hier intervient après celle intervenue le 23 et 27 avril dernier à Rwanguba, Tchengerero, Kabindi et Bougoussa, dénonce cet officier de l'armée et poursuit que c'est en violation du cessez-le-feu et d'autres recommandations du conclave des 4 chefs d'État à Nairobi, lesquelles les obligent notamment à se retirer et rentrer dans leur position d'avant le 25 mars 2022. Mais l'armée n'a pas répliqué, dit ses communicateurs militaires.
Nous n'avons pas répliqué de manière à donner une chance aux recommandations du conclave de Nairobi. Mais qu'à cela ne tienne, les forces armées de la République démocratique du Congo met en garde ces détenteurs illégaux d'armes à feu.
Le porte-parole du M23 rejette ces accusations. Le major Willy Ngoma accuse en revanche l'armée loyale d'attaquer le M23 qui ne ferait que répliquer. Sur le terrain, les M23 affirment occuper les collines de Tchanzu et de Runyoni pour protéger son arrière-base du Mont Sabino, déclare son porte-parole. Tandis que le FRDC, elle, contrôlerait la position de Bougoussa une dizaine de kilomètres au nord. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Rendons-nous à Lubumbashi où séjourne depuis hier le commissaire général adjoint en charge de la police administrative au sein de la PNC. Le général Philemon Patience Mouchidiav est à la tête d'une forte délégation du commissariat général de la police nationale. Il a déclaré que son équipe est à Lubumbashi pour échanger avec les autorités de l'espace Grand Katanga au sujet du dossier des policiers qui ont quitté d'autres provinces et qui se trouvent présentement dans le Grand Katanga. Le général Philemon Patience Mouchidiav, qui les qualifie de déserteurs et de démissionnaires, commissionnaire a indiqué que ces policiers ainsi que ceux qui les utilisent seront sanctionnés, notant que lors de la conférence interprovinciale entre les provinces de l'espace Grand Katanga et celle de l'espace Grand Kasaï, il avait été dénoncé la présence de 750 policiers armés qui se trouvaient irrégulièrement dans l'espace Grand Katanga en provenance d'autres provinces, notamment le Grand Kasaï. Au sud Kivu, pendant ce temps, 5 prévenus ex-membres des groupes armés comparaissent depuis ce lundi devant la cour militaire du sud Kivu. Ils sont jugés en appel pour des faits de crimes contre l'humanité, violences sexuelles, pillages, meurtres et tortures. Un procès qui bénéficie d'un appui de la cellule d'appui à la justice de la MONUSCO avec les autres membres de la Task Force Justice Pénale Internationale. Reportage de Cynthia Bachizi.
Deux dossiers sont jugés en second degré par la cour militaire du Sud Kivu. D'abord, le dossier Bukanga, du nom de la localité dans le territoire de Kalehe où les faits s'étaient produits. 3 prévenus, tous ex-membres du groupe armé Raia Mutomboki Manginga, ont été condamnés en première instance, respectivement, à 20, 15 et 10 ans de prison par le tribunal militaire de garnison de Bukavu. C'était en août 2020. 2 autres prévenus, ex-membres du groupe armé Amakombo, seront également réjugés. Ils ont été initialement condamnés à 20 ans de servitude pénale en octobre 2020. Dans ce procès en appel, les conseils des prévenus vont plaider pour un acquittement de leurs clients qui sont détenus actuellement à la prison centrale de Bukavu. Les peines prononcées en première instance peuvent être soit confirmées ou diminuées, étant donné que le ministère public n'avait pas fait appel. L'audience de ce lundi est organisée au siège de la cour militaire du Sud Kivu à Bukavu, mais sauf imprévu, le procès sera délocalisé dans le territoire de Kalehe à partir de ce mardi, ce qui permettra aux victimes de prendre part aux audiences. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, l'association du réseau des parlementaires africains contre la corruption APNAC invite le Parlement congolais à s'impliquer pour accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa lutte contre la corruption en RDC au cours d'une évaluation ce lundi de l'évolution de l'examen des instruments juridiques contre la corruption. Le président de l'APNAC déplore le fait que la proposition de révision du code pénal traîne encore à l'Assemblée nationale. Passisa Pamba plaide donc pour un examen et une adoption rapide de ce texte afin de renforcer le mécanisme de sanction des cas de corruption et la lutte contre l'impunité en RDC. Passisa Pamba est au micro de Michel Kifindangoy.
On ne peut pas parler de la lutte contre la corruption si, sur le plan législatif, on ne trouve pas des outils de travail susceptibles à faciliter cette lutte. Or, tout cela découle de la volonté du président de la République d'en finir avec le corrupteur et le corrompu. On interpelle quelqu'un aujourd'hui, on parle de millions, le lendemain on le trouve dans la rue, sans qu'on donne la suite à la population, que sur autant de millions pour lesquels tel individu a été interpellé, voilà l'État congolais à recouvrer autant, il reste encore à recouvrer autant.
Santé. Dans la province de l'Équateur, 3 décès sur 3 cas confirmés. C'est le bilan jusqu'ici de la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit à Mbandaka, épidémie déclarée officiellement le 23 avril dernier par le ministre de la Santé publique du gouvernement central. Sur terrain, les équipes de riposte œuvrent efficacement et continuent à mener différentes actions afin de couper la chaîne de transmission. Parmi ces activités, la sensibilisation dont nous parle Paul-Richard Balengela.
Environ 1000 personnes, hommes, femmes et enfants, ont été sensibilisés ce dimanche dans 5 églises de l'aire de santé Motema Pembe, foyer de l'actuelle épidémie de Ebola à Mbandaka. Ce travail a été abattu par des équipes de la communication des risques et à l'engagement communautaire CREC, notamment sur les risques de la maladie à virus Ebola, mais aussi sur l'importance du prélèvement avec enterrement digne et sécurisé, ainsi que sur la vaccination contre la maladie. Entre-temps, l'association des médias associatifs et communautaires de l'Équateur AMASEC a débuté ce lundi une série de sensibilisation à travers le magazine Tobengana Ebola, entendez, chassons l'Ebola. La production traitera des préoccupations de la population sur l'Ebola et des informations fiables fournies par des experts. Ce projet de 3 mois en partenariat avec l'Internews et l'USAID sera diffusé sur les antennes de Radio Moana, Radio Lobico, Radio Bondeko et la Radio-Télévision Zoé. Notons que la sensibilisation fait partie des stratégies efficaces de la riposte mises sur pied par les gouvernements national et provincial ainsi que par leurs partenaires dont l'UNICEF. Le ton a d'abord été donné fin avril dernier par le gouverneur de province Bobo Boloko dans un message radiodiffusé où il a annoncé l'existence de la maladie, ses symptômes et les moyens de s'en protéger. Bondaka pour Chamanengue, la radio Okapi.
Province du Kwilu, un lot important de 289 ballons composés chacun de 50 moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, soit 14 450 moustiquaires à destination de la zone de santé de Mukedi dans le territoire de Gungu, a été pillé le 3 mai en cours par les populations du territoire d'Idiofa. Depuis, tous les services se sont mobilisés pour contraindre ces populations à remettre ces moustiquaires, mais en vain. Plus de détails avec Irène Boma.
Le président de la société civile du territoire de Gungu précise que ces moustiquaires imprégnés d'insecticides ont été pillés par les populations des quatre villages du territoire du Djofa, à savoir Mungai Vanda, Mungai Mundundu, Mungai Musenge et Mungai Kinganzi. Tout a commencé le 3 mai en cours lorsqu'un gros véhicule transportant ces moustiquaires a connu un accident de circulation sur la route nationale numéro 1 au niveau de la descente de la rivière Mungai dans le territoire du Djofa. Joachim Kusamba exige la perquisition dans tous ces villages afin de récupérer tous ces moustiquaires destinés à la zone de santé de Mukedi dans les territoires de Gungu.
C'est un acte que nous condamnons fermement et nous demandons à l'État rapidement d'initier l'action de perquisition. Comme les gens, depuis le 3 mai jusqu'à ce jour, ces gens-là n'ont pas le souci de rembourser, donc de remettre les ballons de moustiquaires qui devraient servir à la population de la zone de santé de Mukedi. La société civile propose rapidement l'action de la perquisition de toutes les maisons de ces quatre villages.
Notez qu'hier dimanche 15 mai, une équipe de Sanri Kinshasa et de Kwilu, accompagnée notamment du chef de parquet de Gungu, de l'administrateur du territoire du Djofa ainsi que de la société civile de ces deux territoires, a séjourné à Mungai pour demander à la population de restituer les moustiquaires pillés. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Kasaï Oriental, signalons la reprise des travaux du projet Chilejelu, travaux suspendus depuis bientôt 3 mois dans la ville de Mbujimai. Le directeur de l'office des voiries et drainages affirme avoir réceptionné une importante cargaison de carburant et de ciment acheminée à la gare ferroviaire de Mweneditu par la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC. L'arrivage de plusieurs wagons a même entraîné la réduction des prix de carburant et de ciment à Mbujimai. La Fédération des entreprises du Congo FEC encourage les autorités de la société ferroviaire à maintenir cet élan. Esther Dalafina, reportage.
Les travaux de modernisation et de réhabilitation de 25 km de route dans le cadre du projet Chilejelu ont repris vers la fin de la semaine dernière à Mbujimai après 3 mois de suspension. Victor Kachala, directeur provincial de l'Office des voiries et drainage OVD, affirme que son entreprise a réceptionné plusieurs tonnes de ciment à la gare ferroviaire de Mweneditu.
Nous venons de réceptionner un lot de ciment qui nous ont permis de reprendre les travaux de maçonnerie. Pour cela, nous remercions les autorités de la présidence de la République ainsi que la direction de la SNCC.
L'acheminement a mené tout d'une importante cargaison de ciment et de carburant a aussi entraîné la baisse des prix de ces produits sur le marché. Le sac de ciment qui coûtait 40 dollars se vend actuellement à 35 voire 33 dollars, tandis que le litre de carburant qui coûtait 6 000 francs se négocie actuellement à 4 300 francs congolais. Dominique Ilunga, directeur provincial de la FEC, encourage les autorités de la SNCC à maintenir cet élan.
Félicitons l'équipe, la direction générale, avec M. Bouton pour les efforts fournis et nous leur demandons de maintenir ce cap.
Signalons que depuis le mois d'avril dernier, une forte équipe de la direction générale de la SNCC a séjourné pendant plusieurs jours à Ilebo dans le but d'évacuer plusieurs tonnes de marchandises, dont les wagons de ciment et de carburant des différents projets conçus pour le Grand Kasaï. Esther Ndalafina, Mbujimai, Radio Kapi.
Actualité internationale. La compagnie Eskom, première société d'électricité d'Afrique du Sud, a annoncé la prolongation du temps de délestage en raison d'une nouvelle perte de capacité de production. À compter de ce lundi soir, les coupures de 3000 MW de 17h à 22h dans la ville du Cap seront portées à 4000 MW. Dans son communiqué, l'entreprise publique qui produit la quasi-totalité de l'électricité de l'Afrique du Sud a précisé que le délestage n'est mis en œuvre qu'en dernier recours pour protéger le réseau national. En France, comme attendu depuis la réélection d'Emmanuel Macron il y a 3 semaines, le Premier ministre Jean Castex a présenté la démission de son gouvernement ce lundi au palais de l'Élysée à Paris. Et c'est Elisabeth Borne, ex-ministre du Travail, qui a été choisie dans la foulée comme première ministre par le président français.
L'invité.
Il nous vient du Sud Kivu. Les consultations intercommunautaires se sont clôturées ce week-end dans la ville d'Uvira. La recherche du vivre ensemble a motivé toutes les communautés à participer activement dans ces assises pendant 5 jours et à l'issue desquelles une feuille de route sur base des états des lieux a été tracée et les engagements ont été pris par ces communautés. Pour en parler, nous recevons Maître Tchako Tchangu Bonané et Bambé, président du comité urbain de la jeunesse d'Uvira. Il s'entretient avec Fiston Ngoma Mayabala.
Maître Tchako Tchango, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez représenté la jeunesse ici dans ces consultations intercommunautaires. Vous faites quelle analyse par rapport aux différentes rencontres, différents dialogues, différentes consultations entre les communautés? Ça a commencé depuis longtemps, même si c'est un processus. Vous avez quelle analyse par rapport à l'aboutissement des différentes résolutions ici de ces rencontres?
Il est vrai que nous avons participé dans cette activité. Au-delà de notre conclusion, nous avons observé que les communautés ne prennent pas encore conscience que elles ont vraiment perdu les gens, qu'il y a une richesse qu'elles ont perdue, qu'il y a un déplacement massif de la population, que nous avons suffisamment appuyé nos jeunes qui sont dans la brousse et qui ont changé de gap, et que nous devons nous interpeller tous. Et qu'il y a des communautés qui sont là, déjà, voulues par Dieu, créées par Dieu, et que nous devons vivre ensemble. Et j'ai vu important de te répéter à Congolais que le devoir d'imposer la paix lui appartient, puisque c'est une mission régalienne. Et nous avons vu combien de fois les conseillers du ministre, il était très actif d'interpeller les communautés, les religieux, les autorités coutumières à s'impliquer pour que nous ayons la paix, à s'impliquer pour une cohabitation pacifique. Moi, j'estime important que nous devons maintenant nous dire que la guerre, les conflits à répétition doivent cesser pour que nous ayons la paix. Mais aussi, ce que j'ai observé, on a vu que même les forces armées commencent maintenant à dire qu'elles aussi sont fatiguées. Il y a quand même un colonel des FARDC qui a dit qu'il fait maintenant 25 ans dans la brousse. Donc pour lui, c'est déjà trop. Il estime important que les communautés doivent d'abord s'interpeller entre elles et dire que nous sommes fatigués et faisons quand même un pas vers la paix. Toutes les actions entreprises par le gouvernement congolais ont été louées. Et un dernier d'ailleurs investissement leur a été donné pour qu'eux aussi s'investissent pour toutes les questions de la paix, de la coopération pacifique, afin que nous puissions voir le développement commencer dans le territoire d'Uvira et dans les hauts plateaux d'Uvira Fizi-Mwenga.
Ouvira, pratiquement, il ne se pose aucun problème de cohabitation entre les différentes communautés. Mais là où se posent les sérieux problèmes, c'est là où il y a un activisme accru des groupes armés. Autour de Minembwe, dans Bidjombo. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe là-bas, c'est une sorte de sabotage à tout ce qui se passe comme dialogue entre les communautés?
Il est vrai que dans la ville d'Uvira, il n'y a pas les groupes armés. Mais ce qui se vit dans le haut plateau d'Uvira, de Fizi, de Mwenga, ont comme conséquence dans la ville d'Uvira. Tous les mouvements de la population de là se déversent vers la ville d'Uvira considérée comme un îlot de paix. Et que là où il y a les groupes armés étrangers comme nationaux, c'est là où se vivent des atrocités très graves. Moi, j'estime important que les groupes armés doivent emboîter les programmes que l'État congolais a amorcés, les PDDRCS. Enfin, que nous puissions quand même voir une paix durable. Et que s'il y aurait des revendications, qu'un lobbying soit fait. Pourquoi pas que ces groupes armés puissent faire un regroupement unique, afin qu'ils puissent au moins parvenir à un mémo auprès du commandant en chef qui est le président de la République. Moi, j'estime important pour eux de les interpeller, de prendre conscience, d'échanger d'abord entre eux, que la population vraiment en a marre. Un groupe armé ne peut vivre là où il n'y a pas de gens. Sans population, donc il n'y a pas un groupe armé. Et là où ils sont, ils se font 10 jours la guerre. Il y a ce qui se passe. Il est temps qu'eux aussi réfléchissent. Il est temps qu'eux aussi revendiquent pacifiquement. Il est temps qu'ils emboîtent les pas du programme PDDRCS, puisque la population en a marre. Dans la ville d'Ouvira, nous avons essayé en interpellant la jeunesse à se désolidariser avec les banditismes urbains. Le message est clair, d'abandonner les groupes armés, de quitter les groupes armés, de se sensibiliser puisque ceux-là qui sont les groupes armés sont nos frères et que nous puissions quand même nous unir dans une cohésion d'idées. Envie de voir que le territoire, la ville, le haut et moyen plateau soient calmes et l'émergence, j'estime, que est en route.
Maître Tchako Tchango, merci beaucoup.
Merci, monsieur le journaliste.
Notre invité, le président du comité urbain de la jeunesse d'Ouvira, s'entretenait avec Fiston Goma. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Rongmouchinj, Alain Goy à la technique et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.